podcasts de Radio Vatican.
Pedro Sanchez a repris la tête du Parti socialiste ouvrier espagnol. Après avoir été poussé à la démission en octobre dernier, l'ancien secrétaire général du parti a gagné la primaire socialiste dimanche 21 mai. Une victoire avec 50% des voix face à Susana Díaz, la candidate soutenue par toute la hiérarchie socialiste. 7 mois plus tard, c'est une revanche de l'économiste de 45 ans. Il a gagné cette élection sur une promesse, refaire du PSOE, le principal parti d'opposition de gauche en Espagne, quitte à s'allier au parti radical Podemos pour faire tomber le Premier ministre Mariano Rajoy et bloquer son parti populaire conservateur minoritaire à l'Assemblée. Une revanche donc d'une gauche plus frontale, mais en pleine crise d'unité. Hubert Pérez, professeur à l'Université Montpellier, chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine, revient sur les raisons de cette victoire et sur le plus gros défi de Pedro Sanchez, réunifier le PSOE largement divisé.
Son argument central était celui du refus du gouvernement d'Ajoy, puisque Pedro Sanchez avait démissionné en octobre dernier sur la question du soutien ou non, du soutien en tout cas implicite à une investiture du gouvernement conservateur de l'Ajoy par l'abstention des socialistes qui a permis l'investiture du gouvernement de l'Ajoy à la majorité simple. Cette occasion-là a été un traumatisme au sein du Parti socialiste partagé entre deux voies assez différentes. L'une consistant à dire qu'il fallait à tout prix éviter à nouveau des élections, puisqu'il y avait eu 2 élections en moins d'un an, et sortir du blocage politique, c'est ce que la majorité des élites socialistes prévoyaient. Et donc la majorité du comité fédéral du PSOE militait plutôt donc pour la solution de l'abstention permettant la mise en place d'un gouvernement conservateur. Et Pedro Sanchez s'y opposait. Et il voulait faire trancher cette question en organisant précisément des primaires et en se relégitimant sur sa position du non radical à Rajoy. Il avait été mis en minorité, il avait démissionné, et finalement c'est sur cette question-là, de façon centrale, que Pedro Sanchez a fait campagne, grosso modo en disant le Parti socialiste s'est en quelque sorte compromis avec le gouvernement conservateur en permettant le maintien de Rajoy au pouvoir. C'est l'argument qui a d'autant plus marché que ces dernières semaines ont été très riches en révélations sur la poursuite des affaires de corruption au sein du Parti populaire et que le problème de la corruption qui est en train de monter dans les sondages en tant que thème de préoccupation des Espagnols a beaucoup, beaucoup agité l'espace public. Et c'est certainement sur cette question du non à Rajoy, de l'idée que les socialistes se seraient compromis avec Rajoy et le gouvernement conservateur corrompu, que Pedro Sanchez a gagné des voix. Bon, par ailleurs, il y a un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays européens, enfin, qu'on retrouve en tout cas en Grande-Bretagne, qu'on a retrouvé au sein du Parti socialiste en France. C'est-à-dire, quand on fait voter les militants, ce sont finalement les options les plus à gauche qui dominent. Ce sont les plus radicalisés qui se mobilisent. Et dans le cas de Sanchez, dont la victoire est assez nette, hein, plus de 50% des voix, manifestement, ce sont aussi les militants les plus à gauche qui se sont manifestés. Et donc il a gagné sur cette ligne-là. Alors une ligne qui est pas claire sur tous les plans, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ensuite, il y a des questions locales qui ont pu jouer. Par exemple, il est très en avance en Catalogne. Il était soutenu par le Parti socialiste de Catalogne parce qu'il est sur une ligne assez floue de l'Espagne comme nation des nations qui pourrait laisser la place à la possibilité d'un référendum. C'est pas dit de façon explicite, hein, d'un référendum, de l'acceptation par les socialistes d'un référendum en Catalogne. Alors que de ce point de vue, la position de sa rivale était beaucoup moins complaisante à l'égard des projets indépendantistes catalans et maintenait l'idée d'une organisation fédérale du territoire espagnol.
C'est clairement une revanche de Pedro Sanchez qui avait été évincé en octobre.
C'est évidemment une revanche. Et alors, lorsqu'on a démissionné, qu'on a été mis en minorité par l'appareil du parti en quelque sorte, et qu'on revient relégitimé par les militants, c'est une double revanche. Il retrouve son siège et c'est un pied de nez au fond des militants classiques du PSOE qui étaient plutôt en faveur de sa rivale. Jusque Zapatero, Felipe González, les grands anciens du PSOE en particulier, s'étaient prononcés pour la candidature de Susana Diaz, qui représentait d'une certaine façon la notabilité du Parti Socialiste.
Est-ce que c'était un retournement inattendu ou est-ce que pas du tout? C'était très clairement la tendance de la part des militants ou de la gauche en Espagne?
Comme pour être candidat, il fallait obtenir l'aval d'un certain nombre de militants. Sur le recueil de ses parrainages, Madame Diaz était en avance. Donc on pensait que si on répercutait ça à l'ensemble du vote des militants, elle en aurait eu une translation en quelque sorte de cette avance. Ça n'a pas été le cas. Donc on ne peut pas dire que c'est véritablement une surprise, mais en même temps, l'importance des forces coalisées au sein du parti, le soutien des grands classiques du parti à Susana Diaz, le fait qu'elle représentait la plus grosse fédération du PSOE en Andalousie, pouvait laisser penser qu'elle arriverait à battre Pedro Sanchez. Mais depuis le début, on savait que ce serait un combat à deux, puisque le troisième candidat, Patxi López, qui est le socialiste basque, paraissait très en retrait. Donc c'est pas une surprise. Ce qui est sans doute une surprise, c'est que l'écart entre les deux est assez grand, hein, puisqu'il y a 10% d'écart entre le pourcentage de voix obtenu par Sanchez et Susana Diaz.
Ça révèle quoi? Que finalement, ce que représentait Susana Diaz n'était pas du tout l'image que les militants de gauche veulent donner aujourd'hui, ou en tout cas le type d'opposition qu'ils veulent au gouvernement d'aujourd'hui?
Il a obtenu 50% des voix, hein. C'est pas l'ensemble des militants, même si cette élection a mobilisé pas mal de monde. Enfin, qu'il y a une très forte composante au sein du Parti Socialiste et sur une ligne de refus radical de la Rajoy et plutôt sur une ligne d'accommodement avec Podemos, avec la gauche radicale. On est peut-être sur un schéma un peu semblable à ce qui se passe en Grande-Bretagne, enfin, en raison de parti social-démocrate, où on a au niveau des militants un très fort appui à Jeremy Corbyn, même si dans les sondages et dans les résultats électoraux, cette ligne de gauche, elle est plutôt désavouée par les électeurs. Alors on verra ce qui va se passer pour la suite. Mais il est clair qu'il y a au sein du Parti Socialiste une très forte composante, en tout cas une composante qui est très mobilisée, plutôt en faveur d'un PSOE ancré à gauche et enclin à se coaliser avec Podemos, on verra dans quelles conditions est-ce que ça peut se faire, plutôt que dans l'accommodement et dans une ligne de centre-gauche qui pousserait plutôt du côté de Ciudadanos et qui verrait d'un bon oeil finalement une certaine stabilité politique. Puisque l'enjeu en octobre 2016, c'était permettre ou non un gouvernement stable en Espagne, puisque depuis plusieurs mois de gouvernement et qu'on ne voyait pas d'issue à la crise politique, puisqu'à l'époque il n'était pas envisageable non plus au Parti Socialiste de s'allier avec Podemos, avec la gauche radicale. Alors là, bon, il y a encore beaucoup d'inconnus qui subsistent, hein, parce que Pedro Sanchez n'a pas dit comment il envisageait, de quelle façon il envisageait une alliance avec Podemos. On sait que il regardera de ce côté-là, mais comment est-ce que ça se fera? Encore toute proportion gardée, on a vu ce qui s'est passé entre le Parti Socialiste et Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise aux élections françaises. Tout le monde dit c'est très bien d'unir les gauches, mais qui est candidat pour qui? Lorsque vous vous présentez aux élections espagnoles comme aux élections françaises, même si le contexte est différent, il n'y a pas d'élection présidentielle, il faut savoir qui mène le jeu. Pour qui on votait? Est-ce que le Parti Socialiste de Sanchez accepterait finalement de jouer un second rôle au sein d'une alliance de gauche qui promouvrait la candidature de Pablo Iglesias à la présidence, qui ferait de Podemos le parti majeur de la gauche espagnole? C'est pas encore joué, c'est pas encore dit, hein. Le pari de Pedro Sanchez, au fond, c'est qu'en paraissant plus à gauche, il arrivera à prendre le pas sur Podemos. Voilà, en gros, c'est ça. Que se passe-t-il si ça ne marche pas? On verra par la suite. Mais sachant que le pari de Pablo Iglesias et Podemos, c'est précisément de remplacer le PSOE, un peu comme en France, la France insoumise avec le PS, de remplacer le PSOE comme force dominante de la gauche espagnole.
Justement, avec Pedro Sanchez qui promet d'être une opposition féroce aux conservateurs, quelles conséquences a sa victoire justement sur la stabilité du gouvernement?
On a deux hypothèses, hein. On a une hypothèse, c'est que les députés, parmi les 85 députés socialistes qui avaient désobéi à la consigne d'abstention pour le gouvernement Rajoy et qui avaient voté contre. Alors ceux-là, on est sûr qu'ils sont sur la ligne de Pedro Sanchez. Les autres, s'ils s'alignent au fond sur la ligne de ce que sera le Parti Socialiste de Pedro Sanchez, et ils pourraient maintenant empêcher le vote d'un très grand nombre de textes, et en particulier du budget. sur lesquels le gouvernement ne pourra pas obtenir de majorité, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui ont été votés jusque-là avec une série de compromis avec les socialistes au Congrès. Donc, on pourrait assister, s'il y avait un alignement de tous les députés socialistes sur la position de Pedro Sanchez, on pourrait assister à un blocage, effectivement, politique du pays, avec l'impossibilité pour Rajoy de parvenir à trouver une majorité pour voter ses lois.
Et comment est-ce qu'il espère, en tout cas, réunifier ce parti socialiste pour l'instant complètement divisé ?
Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire que ce qui permettra de réunir le parti, ce serait... Je ne pense pas que ce parti puisse être réuni ou rabiboché avant que la ligne de Sanchez trouve une consécration électorale. C'est-à-dire que si, aux prochaines élections, le parti socialiste remonte la table blanche, puisqu'il a eu des résultats catastrophiques en 2015 et répétés en 2016, même si il a réussi au fond que Podemos ne le dépasse pas, la sanction, ce sera la réussite électorale. Susana Diaz a fait en grande partie la campagne en disant « mais le pseudo de Pedro Sanchez, il nous a conduit à la déroute électorale ». Et Pedro Sanchez était le premier secrétaire, le secrétaire général du Parti socialiste lors de la déroute des élections de 2015. Donc c'est un secrétaire général qui a perdu déjà les élections. Il a perdu même deux élections. Le parti serait réunifié si sa ligne permet au PSE de rebondir. Sinon, c'est un parti qui pourrait connaître le sort du parti travailliste actuel, c'est-à-dire très fortement soutenu par des militants polarisés, fortement radicalisés, mais éloignant de plus en plus ces éléments modérés parce qu'ils n'arrivent pas à gagner des électeurs au centre. Et dans cette équation va jouer le rapport de force avec Podemos.
Donc le défi, il est autant, on va dire, face à Podemos, comment on crée des liens et finalement on l'englobe, et en interne, comment on arrive à recréer une unité.
Tout à fait. La manière dont les relations avec Podemos seront gérées et la manière dont ces relations seront consacrées électoralement auront une influence très très forte sur le parti. Pour l'instant, ce parti va rester divisé. Il y a clairement deux lignes qui sont très différentes et il y a un ressentiment extrêmement fort. De plus, Pedro Sanchez joue en permanence sur les militants contre l'appareil, puisqu'il propose que sur toutes les questions importantes, on organise des consultations populaires. Suivant un mécanisme d'ailleurs, qui est un mécanisme qui est adopté par Podemos, où on dit il faut que ce soit les militants qui s'expriment chaque fois qu'il y a une question politique d'importance. Donc comme Pedro Sanchez joue les militants contre l'appareil, pas attendre que dans les semaines et les mois à venir, sa relation avec les autres dirigeants du Parti socialiste s'améliore considérablement.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.